Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du magazine de la moto, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Jean-Luc Gagnard, qui est la vedette du documentaire de 52 minutes réalisé par Pierre Bourron. Jean-Luc est passionné de moto ancienne, il a consacré toute sa vie à son musée qui se situe à Montfour, près de Laval en Mayenne. Mais il est aussi spécialiste des véhicules d'avant-guerre, metteur en scène d'exposition et conseiller technique pour le cinéma. Il est désormais l'acteur principal dans le film « La passion des motos avec l'intelligence de la main » qui a été projeté fin septembre au Trianon de Bourgneuf-la-Forêt en Mayenne. On retrouve Jean-Luc juste après la projection du film qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses avec le public présent dans la salle. Vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. On se retrouve dans quelques instants juste après notre premier morceau de musique. A tout de suite.
viens d'un milieu agricole, je viens de Cham, je suis né en Mayenne. Donc j'étais fils unique, je suis allé à l'école à Évron, et puis à Torcy-Vivier, en école d'agriculture. Et puis après, je suis commencé à rentrer dans le monde du travail. À 14 ans, j'allais à l'école une semaine sur trois. Autrement, je bossais dans les fermes. Et c'est donc là que la première ferme où j'ai travaillé, à Blandoué, où j'ai trouvé une vieille moto qui m'attendait dans la grange. J'ai commencé donc à récupérer pas mal de motos, à essayer d'apprendre à les faire fonctionner. C'était quand même beaucoup de travail. Alors j'ai eu l'aide d'un ou deux mécaniciens, surtout un, le père Jolivet Améral, qui m'a vraiment aidé pendant des années. On a partagé une passion commune et il m'a transmis son savoir. Il m'a fait découvrir la mécanique et surtout a aimé la mécanique et l'envie d'apprendre, de découvrir la logique, tout ça, toutes ces choses importantes pour pouvoir réparer et devenir un peu autonome à réparer les motos parce que dès qu'on a besoin de faire quelque chose, c'est toujours un peu compliqué de trouver des gens pour nous aider. Donc, il fallait devenir autonome. C'était la première chose. Ensuite, j'ai commencé à faire j'ai fait des rallyes. J'ai fait un peu de course aussi sur les circuits. J'aime bien. Donc, j'ai eu la chance de courir avec des coureurs comme Phil Reed, comme Ago, comme tous ces gens-là sur certaines manches. Après, j'ai découvert nos vieux pilotes français aussi, Joe Ota, il y en a plein. Et c'est des gens que j'étais à la fin quand ils ont arrêté de courir eux. Et puis, moi, je démarrais un peu dans l'histoire. Et c'était une belle passion, c'est des gens qui nous ont transmis beaucoup. Je faisais les marchés à l'époque, je travaillais à Laval, sur le marché de Laval. En fruits et légumes, poissons, tout ça. Et j'ai rencontré Nicolas. Et on a ensuite, on s'est mis ensemble et on a découvert ce lieu là où j'habite actuellement, qui est une petite ferme qui est très sympa, où il fallait malheureusement construire beaucoup de bâtiments parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bâtiments pour ranger les motos. Et comme j'arrêtais pas d'en acheter et d'en remettre en état, donc il fallait absolument fabriquer des bâtiments, ce que j'ai toujours fait.
En fait, quand on n'a pas le moral, on vient chez Jean-Luc. On fait un bond en arrière de 20, 30, 40, 50 ans et on repart, on a le moral regonflé à bloc. Il y a la petite guinguette là-bas, puis il y a le gibolin, l'ambiance, l'amitié, la convivialité et de voir toutes ces choses qui sont absolument formidables. Et en comparaison, bon, moi je roule Harley, la Harley c'est une belle moto, c'est joli, c'est chouette, il y a du chrome, mais les motos d'antan, que ce soit les voitures, les avions, tout ça, il y avait une âme.
Donc il a fallu que je lie ma profession avec ma passion très rapidement. Donc vers l'âge de 26 ans, donc, je me suis mis à mon compte, je faisais des expos dans les galeries marchandes de grande surface, parce qu'en fait pour faire évoluer ma collection, il fallait que je la fasse travailler tout simplement, et là j'étais amené à faire aussi beaucoup de mise en scène, puisque c'était ma passion, mon travail, donc présenter les motos dans des décors, dans des vieux garages, avec des mannequins, avec des objets publicitaires. Il fallait vraiment faire quelque chose de joli. Puis j'ai toujours aimé l'art et le goût des couleurs, des formes, du design, de tout ça. Donc, j'ai fait ça toute ma vie, de l'expo, des fibres, des corps de restaurant, tout ce qu'on veut. Dès que je suis dans l'artistique, je suis heureux, ça me convient. Harley Davidson, ça parle à tout le monde, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et donc, quand il y a eu le centenaire en 2003, donc j'ai commencé, j'avais déjà 9 Harley Davidson, mais j'ai fait la cabane des frères Davidson pour faire une déco. La cabane où ils ont commencé, donc en 1903. Et puis, cette cabane a eu tellement de succès dans mes expos que tout le monde la voulait. Et donc, pendant 2 ans et demi, en fait, j'ai fait que des expos Harley. Et j'ai continué de récupérer des Harley, de les restaurer, de les compléter. Et je suis monté à 18 Harley au bout d'un an et demi à peu près. Donc, c'était un travail intensif. Je ne vivais que Harley. Je ne pensais que Harley, je pense que ça a été un grand, grand moment de passion qui a duré 2-3 ans. Ça m'intéresse toujours, bien sûr, mais j'ai appris aussi à faire d'autres choses après. Mais j'aime bien quand je suis sur un thème, je le fais à fond pendant une période et puis après, je m'attaque à autre chose. Hein, parce qu'en fait, dans cette passion, on apprend tout le temps. C'est assez formidable pour ça, il y a toujours quelque chose à découvrir.
Je voulais d'abord féliciter mes deux camarades là, parce qu'ils ont fait un travail qui n'était pas forcément facile à faire. Ils couraient après moi tout le temps. Et puis comme je suis un gars qui bouge beaucoup, ce n'était pas toujours facile. Ils se sont tapés des centaines et des milliers de kilomètres. Ils sont déterminés et font un très beau travail que je redécouvre à chaque fois, moi, que je revois le film. Et ben, merci beaucoup les gars, hein, tout simplement. Je crois qu'ils méritent les applaudissements. Voilà, ben moi je redécouvre à chaque fois, parce que ben, les petits détails, les, comme la Landru, tout ça, la beauté des pièces, on voit des petites pièces en gros plan, avec des patines, avec plein de choses, et moi je m'éclate quand je vois ça. Et donc voilà, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ben, c'est le moment, hein, faire de l'échange, n'hésitez pas.
Pourquoi la cheminée de Landru quand même, hein?
Non, la cheminée de Landru n'était pas là, la cuisinière c'est Ruquier qui l'a, moi j'ai la moto... Et ça me va bien, je préfère la moto à la cuisinière. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur toute cette vie, tout ce travail qui a pu être fait, et puis les projets, hein, on a toujours des projets, on en a un gros sous le coude là en ce moment, du lourd, une expo gigantesque qu'on va mettre en route là dans 2 ans, 2026. C'est presque tout le musée qu'on va déménager à Château-Gontier. à Saint-Fiacre, et une expo qui durera 45 jours. Donc c'est un travail monumental. Je me pose toujours la question, est-ce qu'on est capable de le faire? Mais bon, jusqu'à présent, on a toujours fait ce qu'on a commencé. Oui, bah, ça commence à baisser, hein. Je les trouve lourdes, les motos. Et puis voilà, si on peut réaliser ça, bah, ça serait sympa. Un travail d'équipe formidable avec Château-Gontier. Toujours un projet qu'en pousse un autre.
Mais après avoir vu le film en image, enfin les véhicules en image, il n'y a plus qu'à aller au musée, hein. Le musée est ouvert régulièrement, c'est sur demande, sur Spark Group.
Alors donc, pour répondre à cette question, oui, petit à petit, ben, le musée s'est fait, on va dire un peu tout seul, avec beaucoup de travail, mais il s'est fait. Il s'est fait une renommée aussi, suite au musée que j'avais fait à Nantes, la Grange au Harlay. Ça a été le début aussi de cette aventure, parce que ben, comme ça s'est arrêté à Nantes et que tout le monde avait envie de continuer de voir le musée, ben, j'ai dit venez chez moi. Et puis ça, petit à petit, ça s'est développé. Et puis maintenant, ben, y a beaucoup, beaucoup de monde qui viennent. C'est un bel échange et ça me permet de faire vivre le lieu. Ça me permet de me rencourager aussi, parce que y a des fois, je baisse les bras un peu. Hein. C'est un travail intensif permanent. Après on peut avoir des problèmes de santé qui se greffent un peu là-dessus, donc voilà, on ne se rajeunit pas, mais on en invente quand même. Et puis voilà, partage ça avec tous ceux que j'aime, et puis voilà, on va continuer, hein, tout le temps que je pourrai. Comme on disait dans ce film, il faut aller au bout de ses rêves. Il y a des fois je me suis posé des questions, et puis en fait j'ai dit fais donc ce que tu as envie de faire, et de toute façon il faut y aller. Voilà.
Je voulais savoir un peu comment se passaient tes relations avec des acteurs relativement connus comme Omar Sy, Duris et autres, et les réalisateurs de ces films. Un réalisateur par principe, c'est chiant.
Ah ben, oui, des fois, ils ne font pas de cadeaux, puis on n'arrive pas toujours à comprendre trop ce qu'ils veulent faire, mais eux, ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Les relations peuvent être sympas, comme des fois un peu dures. Hein. Ils ne sont pas toujours faciles. Sur un plateau de tournage, il y en a toujours des durs, et puis, puis d'autres qui sont très gentils, qui ont une main de fer dans un gant de velours. C'est un bonheur de découvrir tout ça. Il y a des moments d'émotion forts, hein, quand on a fait le collier rouge, là, tout ça, il y avait Cyril Franlin là, qui était avec moi. On en a bavé, hein, sur cette histoire-là. Et puis le soir, le père Becker, ben, il nous a bien récompensé. Il nous a fait un yoleton d'enfer. Et puis on a mangé avec le chien qui est le héros du film, ce fameux chien, parce que cette histoire du collier rouge, en fait, c'est l'histoire d'un chien qui suit son maître pendant la guerre 14. Je vous le conseille, c'est un truc magnifique avec beaucoup d'émotion, et donc on a eu la chance de vivre ça. Le plus grand moment de cinéma, moi, qui a été formidable pour moi, c'est dans le film avec Omar Sy, Chocolat. J'ai été dans une rue, comme on a vu tout à l'heure d'ailleurs, cette rue avec les chevaux, les calèches et tout ça, où je tournais normalement avec mon tricycle de Dion Bouton. Et puis j'ai eu un moment où y avait un arrêt sur le tournage. Et donc je me suis dit... Alors, il y avait 200-300 mètres de rue, tout d'époque, les gens d'époque. J'ai dit, je vis ça comme les visiteurs, un peu dans le film Les Visiteurs. Je vais me vivre ce moment-là intense. Donc, ils étaient tous arrêtés, prêts à recommencer la scène. Et là, j'ai traversé toute la rue, mais en longueur. Donc, j'ai vraiment eu l'impression d'être à une autre époque et de la vivre, surtout. Et ça, c'était extraordinaire. Franchement, c'est un truc qui m'a jamais quitté l'esprit. Un truc presque inexplicable. J'étais vraiment à une autre époque. Déjà que j'y suis un peu pas mal. Mais alors là, c'était hyper fort. Ben voilà, des moments que je souhaiterais revivre. Dans ce film Chocolat, on a vécu des scènes magnifiques. Il y avait, au niveau décor, il y avait ce village aussi avec toutes les caravanes. C'était beau, ça aussi. Alors, moi, les décors, ben, c'est un truc qui me fascine. J'aime ça. Je travaille des fois sur les décors aussi. Ben voilà, ça permet de pérenniser les choses. Moi, c'est ce moment-là qui m'éclate le plus. Alors, le faire vivre à nos véhicules, le faire partager à nos véhicules, ce qui leur donne une histoire qui va permettre, qui vont emmener avec eux, hein, automatiquement. Les motos qu'on tournait dans un beau film, ben, elles ont ça dans leur histoire à elles, dans leur bagage, qu'elles vont pérenniser automatiquement. Moi, c'est un travail que j'adore vraiment faire. On a des moments aussi qui ne sont pas faciles. C'est surtout avec le matériel. Il faut suivre le matériel. Il faut le... C'est pas ça, parce qu'ils ont vite fait de casser quelque chose, pas toujours par méchanceté, mais par un manque de savoir. Donc il faut former les acteurs, il faut former les figurants, il faut créer une relation amicale, il faut les impliquer. Je vais vous expliquer dans le film La Carsonne, avec Laura Smet. C'était Grégory Fitoussi qui se servait de ma moto, qu'on voit faire un dérapage là, dans le film. Alors, quand je suis arrivé avec ma moto sur le tournage, je vois ce grand garçon, parce qu'il fait 1m85, peut-être 1m90, qui est là avec... j'ai dit, bon sang, ma moto, elle n'est pas si grosse que ça, moi. Comment on va le loger là-dessus, lui? Alors, bon, j'ai dit, bonjour Grégory, on va faire un petit essai. Déjà, installe-toi sur la moto pour voir ce qui se passe. Ah ouais, c'est bien ce que je craignais. T'es trop grand ou la moto est trop petite? Alors, je la reprends dans le camion atelier. Et puis j'essaie de gagner de la place, donc j'ai remis le guidon un peu plus haut, les repose-pieds un peu plus bas, enfin tout ça. Et je reviens avec ma moto, il s'assoit dessus, ah il dit ça va, je suis mieux, tout ça, ok. Bon, et bien avant de faire les premiers tours de roue, je vais t'apprendre à l'aimer cette moto. Je vais te raconter son histoire, parce qu'on ne peut pas rouler avec ça sans savoir ce qu'on a entre les jambes. Alors donc, je lui ai raconté l'histoire, elle venait d'Angleterre, elle avait 100 000 miles, l'anglais, l'ancien propriétaire qu'il avait, il a fait 100 000 miles dans sa vie avec cette machine, c'est incroyable. Hein, il a rajouté à cette moto toute la technologie nouvelle qu'il connaissait à l'époque. Donc je lui ai appris l'histoire de la moto et je lui ai appris à l'aimer. Et après je l'ai vu dans les tournages, dans les moments, je le regardais, je l'observais avec ma machine et c'est vrai qu'il en prenait soin. Il en parlait même avec d'autres gens. Des fois je tournais avec d'autres véhicules, moi des camions, des gros trucs. Et j'avais toujours un petit coup d'œil comme ça, voir comment ça se passait parce qu'elle a tourné quand même, on a fait 6 épisodes. Et donc ça représente beaucoup d'heures de tournage. Et il était toujours, on voyait bien que mon petit message avait passé. D'ailleurs, c'est très bien passé. Il ne l'a jamais abîmé. Elle a toujours bien fonctionné. C'était vraiment très bien. C'est un vrai plaisir quand ça marche comme ça.
And the blue. Et depuis le documentaire, tu as tes machines ont été dans quel film?
Alors, le dernier qu'on a fait, c'est De Gaulle. On a travaillé avec Patrice sur De Gaulle, avec la CEMEC, celle qui est dans la salle. On a tourné, Cyril, lui, il a tourné avec son camion. Enfin, on a fait des scènes un peu. Il y avait deux CEMEC, hein. En fait, c'était les deux motos qui représentaient l'escorte du général De Gaulle. Donc, c'est ça qu'on m'avait demandé au départ. Et puis, bon, elles ont tourné pas mal. Malheureusement, j'en ai une à la fin qui a cassé, quand le moteur a fini de casser. Ça ne nous arrive pas souvent, mais là, c'est arrivé. Maintenant, on n'a plus qu'à réparer. Voilà, c'était sympa. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre l'année dernière? J'ai fait un truc qui sort de mon répertoire. J'ai travaillé sur Walking Dead. Walking Dead, vous connaissez, avec les zombies, c'est une série, enfin c'est les Américains qui font ça. On a beaucoup de séries américaines, hein, qu'on tourne en France. Donc, ça m'a pas déplu. C'était assez curieux. Hein, tous ces zombies qui étaient dans les douves et tout ça. Bah, c'est dit, bon, il faut pas tomber dans la douve. Hein. Il y en avait peut-être 200 là-dedans. Ça grouillait de partout. Un truc de fou. Et puis, j'ai fait un vieux garage avec plein de motos entassées dedans. C'est ce qu'ils m'avaient demandé de faire. Et ça m'a bien plu. C'est vraiment un chantier qui était en plein dans mon truc, ça. Voilà, après, je réfléchis, les derniers. On a fait Natacha, mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus. C'est un film qui n'est pas fini. Là, ils m'ont demandé sur une série. J'ai pas la réponse encore. C'est Police, Paris Police 1900, un truc comme ça. C'est une série aussi, ça. Et j'ai aussi de plus en plus de voitures. Il n'y a pas que les motos. Je me suis intéressé de plus en plus aux voitures pour une raison simple. Les voitures d'avant-guerre sont assez délaissées par les collectionneurs actuellement. Et ce qui me permet d'acheter de très très belles voitures à des prix qu'on ne pouvait pas acheter il y a quelque temps encore. Et je redécouvre une passion. Et ça, j'adore les moments forts. Donc, il y a eu Harley Davidson, il y a eu la guerre 14, il y a eu plein de choses. Et je suis toujours en manque d'une passion nouvelle. Et donc là, avec les voitures, je complète un peu ce manque. C'est formidable, il y a des trucs incroyables. Hein. Notre histoire est tellement riche, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses, on n'en verra pas le bout. Hein. Il y a Patrice qui veut poser une question.
Voilà, donc moi j'y étais ce jour-là. Est-ce que tu pourrais raconter l'histoire de ta rencontre avec Brad Pitt?
À l'histoire de la rencontre avec Brad Pitt. Alors, Brad Pitt venait au Mans pour donner le départ des 24 heures. Et le régisseur qui s'occupait de lui, moi, Michael, qui est un ami à moi, savait que Brad Pitt collectionnait les motos. Et puis, comme il connaissait bien le musée, et que j'avais travaillé pour lui dans pas mal d'occasions, il s'est dit, tiens, je vais proposer à Jean-Luc de ramener Brad Pitt chez lui, à condition qu'on ait le temps, parce que sa vie, elle est minutée à un point juste inimaginable. Et donc, je réfléchis 3 minutes, et puis je dis oui. Je dis OK. On le fait, si on peut, on le fait, pourquoi pas. Et donc, on a lancé cette aventure qui a fonctionné. Parce que je suivais un peu ses faits et gestes pendant peut-être 2 jours, hein, au Mans. Et puis tout d'un coup de fil, Jean-Luc, c'est bon, on part du Mans, on arrive dans 20 minutes chez toi, ben, en hélico, ça va plus vite qu'à pied. Et donc, j'avais préparé un endroit dans une ferme qui pouvait l'accueillir. Et donc, c'était super sympa. L'œuvre là qui arrive, on a fait des petites surprises aux gens qui étaient autour de nous. Je vais vous raconter quand il est descendu de l'hélico. C'est quand même un personnage incroyable. Donc, ils étaient 8 ou 9 dans l'hélico. Il y avait ses gardes du corps, il y avait avocat, il y avait son staff, hein, les gens qui l'entourent. Et donc, ils descendent tous de l'hélico. Et le dernier, c'était Brad Pitt. Alors là, le grand mec en blanc avec les Ray-Ban, enfin tout ça, qui sort de l'hélico et on a l'impression qu'il a un projecteur en permanence sur lui. C'est la première fois que je voyais quelqu'un avec une aura aussi forte. C'est incroyable. Donc, je l'ai emmené en sidecar, Patrice en camion, avec un vieux camion, un U23. On a essayé d'embarquer tout ce petit monde. Et Brad Pitt, bah, il y était à mon Indian. Je lui ai proposé de la piloter. Et il m'a dit non, enfin on m'a dit non. On a eu du mal à se comprendre parce que l'anglais, mon anglais mayennais, moi, c'est spécial. Et puis lui, c'est de l'américain, alors c'est très spécial aussi. Enfin bref, on arrivait à faire cette belle journée quand même. Et le meuf l'a parti en sidecar avec moi. Toute l'équipe derrière s'inquiétait beaucoup parce qu'ils ne sont pas habitués de le lâcher. C'est leur casse-croûte. Hein? Alors, ils voient Brad Pitt qui disparaît dans la nature. Ben, ils se sont dit, mais c'est un enlèvement, c'est un truc qui n'est pas normal quand même. Alors, ils poussaient après Patrice pour qu'il décolle, mais puis ils faisaient traîner un peu le truc pour s'amuser. Et puis, enfin bref, nous voilà tous arrivés à la maison. Brad Pitt, il m'a scotché, hein, parce que c'est un gars d'une humilité vraiment incroyable, très humble, toujours peur de déranger, très poli, qui te demande toujours s'il peut faire une photo, si voilà, c'était ça m'a vraiment marqué cette histoire. On a fait une visite d'environ 2 heures et puis on a fini par boire un petit coup, un coup de mousse et puis voilà, 2-3 machins grignotés avec ça. C'était un moment assez incroyable. Alors le pire restait derrière, c'est-à-dire qu'on ramène notre sacré Brad Pitt. Il était heureux qu'on n'imagine pas. Il était tout seul avec moi dans le sidecar. Il faisait des photos du ciel, des vaches, de tout, parce qu'il savait pas comment exprimer son bonheur. Surtout de n'avoir personne sur son dos. C'était ça qui était formidable pour lui, parce que ça n'y arrive jamais. Alors donc, le voilà reparti à l'hélico, on se fait tous coucou et tout le monde était content. Et c'est après que ça a commencé très fort. C'est que j'en recevais un groupe de cyclotouristes. Il y avait à peu près 240 personnes qui passaient dans la journée. Donc gros travail. 2 heures à peu près après que Brad Pitt était là. Alors, je vous dis pas, les filles, quand elles ont su que Brad Pitt était là 2 heures avant, elles se sont mises dans un état. Ça criait de partout. Ça voulait toutes s'asseoir dans le sidecar, mettre le casque, mettre le blouson. Enfin, c'était un truc complètement incroyable. Après, vous imaginez 240 personnes qui prennent le téléphone et qui appellent tout le monde autour d'eux pour raconter l'histoire. Alors donc, le soir, on s'est retrouvés avec au moins 150 personnes dans le chemin, dans la cour, qui venait voir où Brad Pitt avait atterri. Et après, ça a été un truc de ouf. Partout où je me promenais, enfin où j'allais, eh ben, on n'entendait parler que de ça. On allait dans les vide-greniers, il parlait que de Brad Pitt. J'avais des points à récupérer, moi, au permis de conduire. Là. Et ben, la première chose, quand je suis rentré dans la salle, ben, ils m'ont présenté, ils ouvrent la partie sur l'histoire de Brad Pitt. Et ça a duré des années, ça dure toujours un peu. Mais c'était assez incroyable. Donc, on a vécu un moment sympa. Il n'y a rien eu de négatif à cette aventure. Ça a été une très, très belle aventure qui m'a aussi beaucoup aidé, qui m'a propulsé dans pas mal de choses. Et voilà, des bons moments. Des bons moments, oui. Bon, après, j'ai eu Florent Pagny, c'était différent. C'était une visite de courtoisie, comme disait Pierre-William Glenn. Ça a été un échange excellent. On devait faire ce film où Pagny jouait mon rôle. Et ça, ça a été merveilleux de le faire, mais on n'a pas pu. Bah, c'était l'aventure, en fait, d'une jeune fille qui vient du milieu de la bourgeoisie parisienne et qui avait un oncle un peu folle-dingue qui restaurait des motos et qui faisait des courses de tour. Enfin, voilà, c'était moi l'oncle, mais joué par Pagny. Voilà. Mais ça, malheureusement, n'a pas pu vivre ce grand moment. Alors, c'est un peu ça aussi, hein, le ciné et tout, c'est qu'on s'attend des fois à faire des choses exceptionnelles, il se passe pas grand-chose. Et puis, tout d'un coup, on a un coup de chance. Ça se passe super bien. Quand on a fait le film de Becker, se taper, traverser la France avec un camion, des fois, c'est pour rien. Hein. C'est, on ne voit même pas l'image du camion sur l'écran. Et là, on se chope une belle scène. Ça, c'est chouette. Hein. C'est une belle récompense. Alors, je vous laisse, parce que moi, je cause tout seul. Là. Je vous laisse parler à votre tour.
Sinon, autrement, dans tous tes films que tu as fait, ton premier film, La bicyclette bleue. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire de La bicyclette bleue?
Alors oui, c'est une histoire sympa, parce que c'est là où j'ai rencontré le cinéma. C'est le premier film que j'ai fait. Je passe une annonce pour vendre une moto, et il y a un monsieur qui m'appelle, et il me dit, moi, votre moto m'intéresse, mais c'est pas obligé que je l'achète. Vous pouvez simplement me la louer, c'est pour un film, La bicyclette bleue. Et donc, ce bonhomme, c'était un fournisseur de véhicules pour le cinéma, mais qui faisait ça depuis tellement longtemps. On s'est découvert tous les deux. J'ai eu la chance, sur les trois jours que je suis resté sur le tournage, en fait, de partager que des moments forts avec lui. C'était Yvan Bernard, cet homme-là. C'est un homme qui a fait énormément de films. C'était un échange, on va dire, de passion. Il m'a expliqué un peu comment il faisait, comment il louait ses trucs, comment il faisait un peu la promotion de ce qu'il faisait et tout. Donc, il m'a mis le pied à l'étrier pour démarrer un peu dans ce métier. Maintenant, on se débrouille tout seul. Hein. Il y a encore quelques... On voit bien que ce milieu a changé. Lui, il est plus là-dedans parce qu'il aurait 95 ans peut-être ou plus. Donc, il y a des générations. C'est comme les acteurs. Vous avez des générations qui passent. Et puis, 20 ans après, c'est d'autres, et ainsi de suite. Et nous, dans le matériel, bon, on a un copain là, qui a gros de matériel, Eric Grimaldi, et qui, maintenant, nous loge des morceaux. Moi, c'est beaucoup les motos, parce que ça ne l'intéresse pas trop. Et puis, moi, ça me va bien. Et puis, on complète de temps en temps avec des camions, des voitures, enfin, ce qu'ils ont besoin. Donc ça, c'était une belle chance. Alors, ce qu'il veut parler, le frangin, là, je le vois derrière ses lunettes. Il me parlait de Laetitia Casta, surtout. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Le premier jour, quand c'était le dîner le midi, je tombe en face de Laetitia Casta. Alors, bon, c'est vrai que c'est une femme, elle est aussi belle comme vous l'imaginez. Donc, très sympa, très simple aussi. Et j'avais une scène où elle était sur son vélo, puisque c'était la bicyclette bleue. Et puis, elle était dans un bois, il fallait monter une petite côte. Et donc, elle avait un peu de mal à décoller. Et puis nous, qu'on est des gens un peu toujours prêts à rendre service... Je lui ai dit, je veux bien te donner un coup de main, mais j'étais un peu embêté. Il n'y avait pas de porte-bagages, il n'y avait pas grand-chose pour l'aider à pousser. Donc, j'ai été obligé de lui prendre les fesses et de la pousser dans la côte. On a refait la scène comme d'habitude 15 ou 20 fois. J'aurais bien fini par y prendre l'habitude à cette histoire. Donc ça, c'est des petites anecdotes. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous voulez, ou à mes collaborateurs, là.
Donc on a été obligé de trouver des petits trucs pour tourner, en particulier quand tu courais en voiture ou en moto. Donc c'est avec une petite caméra GoPro que j'avais accrochée sur son guidon pour le vélo. Malheureusement, elle a un petit peu ripé pendant qu'il courait. Donc on voit un petit peu son visage un peu... Et puis, quand il est en voiture au Mans classique, là, on n'avait pas le droit de mettre de caméra dans sa voiture. Donc, j'avais toujours une caméra GoPro avec une ventouse que j'ai réussi à coller sur la paroi et de manière à l'orienter vers le visage de Jean-Luc. Et ma foi, ça a marché.
Oui, elle est bien, les scènes avec la voiture, tout ça. Oui, madame.
Et donc, On vous laisse au moment où vous commencez à la mettre en route et j'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait après.
Ah, ce qu'elle est devenue.
Voilà.
Alors donc la moto Landru, elle est toujours dans le musée, bien sûr. C'est une pièce auquel je tiens énormément. C'est un peu les pièces de musée, hein, comme on dit. Hein. Ça me permet aussi de raconter des anecdotes, de raconter aux gens l'histoire de Landru, que je pourrais vous raconter si vous voulez. Ça peut être l'occasion. Donc on va se faire un petit tour d'histoire avec notre fameux Landru. Alors, Henri Désiré Landru était fils de mécanicien en 1900. Il était passionné de mécanique, il va faire des écoles de mécanique, il va soi-disant même être ingénieur, et puis il va se lancer à Paris, et il se fait un petit bouclard, comme on appelle ça, un petit atelier de mécanique. C'était un petit bonhomme très coquet, très avenant, et puis assez filou, bien sûr, puisqu'il a eu une carrière un peu spéciale après, que je vais vous raconter. Alors, il va créer cette fameuse moto, qui est vraiment une belle réussite au niveau technologie, elle est moto passionnante, et puis il la propose à la clientèle. Il disait aux gens, bah, écoutez, je peux vous en faire une si vous en voulez une. Simplement, à l'époque, on payait un tiers du prix de la moto. Alors, Landru se contentait des tiers. Il ramassait les tiers, tout ce qu'il a pu, mais il n'a jamais fabriqué les motos. C'était une de ses premières escroqueries. En 1907, un client qu'il a escroqué le croise dans la rue et le reconnaît. Il chope un policier, il sera arrêté, et il aura un procès à l'époque et il aura environ 6 mois de prison, ce qui n'est pas non plus énorme. Alors l'histoire qu'on lui connaît, c'est les femmes pendant la guerre 14. Donc Landru était assez coureur de jupons, il était très occupé par ça. Il avait aussi une femme, 4 enfants, et son père qui vieillissant, qu'il fallait quand même amener à manger à la maison, il fallait soutenir la famille automatiquement. Donc il avait peu de temps pour gagner de l'argent. C'est pour ça que ça l'a poussé très vite à l'escroquerie, puis au meurtre, comme c'est arrivé après. Alors notre fameux Landru, la guerre 14, comme vous le savez, va laisser énormément de veuves. Hein, les pauvres bonhommes ont été se faire tuer sur le front. Certaines femmes, au bout d'un an ou deux, se disent « j'en ferai bien ma vie parce que vivre toute seule, ce n'est pas évident ». À l'époque, trouver un homme, c'était un parcours très difficile. Il n'y avait plus beaucoup d'hommes. C'est une pénurie de bonhommes à cette époque-là, mais ils s'étaient tous fait blesser ou tuer sur le front. Alors, ils passaient des annonces dans les journaux. C'était la façon de communiquer de l'époque. Et puis, Landru était à l'affût de ça. Il n'était pas parti à la guerre, il avait pas loin de 50 ans. Il avait 4 enfants, et quand tu avais 4 enfants, tu partais pas à la guerre. Donc, le fameux Landru se dit, bon, puis comme il était coureur de jupons comme pas un, il choisissait des femmes très, très riches, de préférence, pas forcément jolies. Il savait faire avec les femmes, donc il leur promettait le mariage, plein de choses, et quand il avait les comptes en banque, les procurations, enfin tout ce qu'il fallait, c'est à ce moment-là qu'il les emmenait à Gambé passer le week-end et que ces malheureuses finissaient dans la cuisinière. Comme je dis toujours, Landru était partisan de la femme au foyer. Hein ? Faut bien mettre un peu d'humour dans une histoire aussi triste. Alors donc, il y a 11 femmes et un jeune homme qu'on finit dans la cuisinière. Hein ? Et donc, cette histoire, les voisins, à un moment donné, trouvaient bizarre ces fumées nauséabondes qui sortaient de la cheminée. Donc, ils vont porter plainte à l'époque. Il y a un commissaire des Brigades du Tigre, le commissaire Lambin, qui va s'occuper de cette affaire-là. Et il va vraiment être fasciné. Il va vraiment le faire très sérieusement. Il va se rendre compte aussi qu'il y a 2 femmes où il y a eu des plaintes de portée dans la région. Que ça rapproche un peu vers Gambé. Voilà, l'enquête sera très difficile. Landru changeait de nom tout le temps. Il brouillait les pistes. C'était un homme très intelligent, qui avait plein d'astuces et tout. Il va mettre près de 2 ans à le trouver. Et puis, au moment de l'arrestation, il va s'apercevoir que Landru avait dans sa poche un carnet. C'est là où était l'erreur, en fait. C'est que Landru notait tout. Alors, pour la police, c'était formidable, tout était marqué. On voit aussi dans cette histoire de carnet qu'il avait eu à peu près 80 maîtresses depuis peu de temps, hein, depuis ces années-là. Alors donc, il est arrêté. Lambin s'est aperçu aussi qu'à la gare de Gambé, quand il venait avec une femme, il prenait un aller simple pour la dame et un aller-retour pour lui. Il n'y avait pas de petites économies à cette époque-là. Hein. Alors donc, Landru va avoir un jugement qui va être assez long, à peu près 2 ans. En 1922, il va être guillotiné à l'âge de 50 ans. Voilà, c'était un peu cette histoire.
Vous aviez essayé la moto.
Est-ce que tu as roulé avec la moto?
Ah oui, la moto. Pour l'instant, je n'ai pas fait de grande distance parce que j'ai peur de la casser. Parce que c'est quand même une moto, j'ai eu du mal à la faire. Et puis, mais ça m'arrive avec d'autres motos aussi. J'ai du mal à les faire et puis je suis arrivé à un aboutissement que j'ai peur de repartir en arrière. Et puis, il y a aussi que le boulot, il me pousse aux roues et celle-là m'en avait pris pas mal de temps. Alors donc, j'y fais attention. Ou des fois, ça m'arrive, je vais lâcher un moment pendant un an ou deux, puis un autre jour, ça va me prendre, je vais dire, celle-là, je n'ai même pas fait tourner, quand je l'ai restaurée, je vais le faire maintenant. Voilà, ça devient... C'est comme ça, c'est de la motivation. Oui.
Je pensais que l'intérêt pour vous, c'était de rouler dessus.
Oui, alors, moi, je suis assez bizarre de ce côté-là. C'est-à-dire, il y a beaucoup de collectionneurs, ils n'ont envie que d'une chose, c'est de rouler dessus. Moi, ce n'est pas forcément ma première motivation. Ma première motivation, c'est de la voir belle. C'est de la voir entière, de la voir reconstruite, de la voir qu'elle existe, qu'elle ait retrouvé une identité. Voilà, première motivation. Et puis, des fois, je suis content, je la mets en route. Mais des motos très fragiles ou très... un peu spécial comme ça, j'ai toujours une appréhension de rouler avec. Et ça, des fois, il me faut plusieurs années pour que ça me passe. C'est curieux, mais c'est comme ça.
Les motos que vous achetez, vous les revendez parfois?
J'ai été obligé longtemps, quand je faisais les galeries marchandes de grande surface, j'avais des clients qui me demandaient des collections, et l'année d'après, ils me disaient « Bon, Jean-Luc, il faudrait que tu nous refasses une autre expo. » Donc, j'ai une période où les motos ont bougé pas mal, parce qu'il fallait que je recrée des choses nouvelles. Il fallait tout le temps que je sois en évolution. C'est assez difficile de revendre des motos parce qu'on est attaché, mais c'est aussi le secret d'une évolution. Une collection qui ne bouge pas a du mal à évoluer, ça c'est clair. Donc il faut savoir se séparer pour avoir autre chose, pour obtenir autre chose.
J'aurais souhaité savoir la surface que prenait l'ensemble de votre musée à Montflour.
Alors, j'aurais pas de réponse à vous donner, c'est comme le nombre des motos, c'est que j'en sais rien. Non, j'en sais rien parce que ça me prend, je fais un bâtiment, j'ai un tas de planches qui traînent, et je me dis, là, je vais mettre ça, je vais me faire cette scène-là, et en fait, mon plaisir, elle est surtout de ma nouvelle passion, c'est la prochaine mise en scène que je vais faire. Donc, j'ai plus que ça dans la tête. Et puis ça y est, le moment, le bâtiment est fait avec ce que j'avais, hein, c'est que de la récup tout le temps. Ça y est, j'ai le moment d'excitation qui arrive, c'est la mise en scène. Qu'est-ce que je fais comme déco? Qu'est-ce que je vais faire pour faire ressortir l'histoire et tout? Et c'est comme le nombre des motos, on me dit, mais combien vous en avez? J'en sais rien, j'ai jamais compté mes motos. La seule chose qui est importante, c'est qu'il en revienne une nouvelle rapidement, parce que je suis toujours... c'est une drogue, hein, c'est comme ça. Hein. J'ai toujours fait ça, je suis passionné par ça, et je ne pourrais pas m'arrêter, je crois.
Voilà. Vous avez des horaires de visite et des jours de visite?
Alors, les jours de visite, oui, on fait souvent... je ne fais que des groupes sur réservation, c'est un musée privé. J'essaie de faire des groupes d'une vingtaine de personnes pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler, qu'ils puissent m'entendre et tout ça. Bon, des fois, il y a plus, enfin, on fait comme on peut. Les horaires, c'est souvent 10h le matin et puis 14h30 l'après-midi. Et les jours d'ouverture, il n'y en a pas vraiment, c'est quand j'ai du monde. Et puis, je suis ouvert presque tout le temps, moi. C'est-à-dire que quand je suis là, je suis ouvert. Hein? Non, c'est simple. Hein? C'est une vie très simple chez moi. Alors, si vous voulez me dire, est-ce que je veux faire un grand musée? C'est une idée que j'ai eue, comme on a parlé dans le film. J'ai toujours eu envie de faire un grand musée, sauf... que ça m'a pensé un petit peu, parce que c'est tellement beau, là, maintenant, le mien, là. J'ai un peu de mal. J'ai un peu mal à me dire, on va casser tout ça, mettre tout ça dans un grand musée et tout. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. De toute façon, je suis à un stade de transmission aussi. Et donc, on va peut-être voir aussi, peut-être. Enfin, moi, j'aime ce que j'ai fait, mais on n'est pas éternel. Et donc... ce que je souhaite, c'est que ce musée vive, surtout qu'on le... parce que c'est maintenant une vraie page d'histoire. J'ai travaillé sur l'histoire pendant... ça fera 50 ans l'année prochaine. Donc ça serait dommage de mettre un coup de pied là-dedans et puis de dire, hop, ça va s'envoler. C'est aussi le but de cette exposition qu'on va faire. C'est aussi pour refaire parler du musée, redonner un intérêt et se dire, peut-être que... je sais pas, un mécène ou n'importe quoi. Hein, ça peut aussi être un conseiller général ou je sais pas quoi qui se disent, oh, c'est quand même trop beau, on ne peut pas laisser partir ça. Enfin voilà, bon. On verra la suite des événements. À chaque fois, c'est une aventure. Ouais.
Vous avez combien de bâtiments ?
Eh bien, les bâtiments, c'est comme les machins, je les compte pas. moi, les chiffres, c'est pas facile. Hein. Je suis dans la pension, dans l'histoire tout le temps, mais je compte rarement. Je compte ni mon temps. Je sais jamais quel jour il est. J'ai jamais eu de montre. J'ai vendu ma montre que mon père m'avait payée à ma communion assez rapidement après, parce que j'avais besoin de sous pour des bouts de pièces de moto, sans doute. Enfin, vous voyez, c'est comme ça. Je vis un peu comme ça. Avec le lever du soleil.
Ce sont des modèles uniques où il y a parfois deux véhicules, les mêmes, quoi.
Oui, j'ai une bonne question. Il y a pas mal de pièces uniques maintenant, des histoires comme Landru, bon, c'est particulier parce que ça a énormément défrayé les chroniques, mais j'ai des constructeurs qui ont fait une moto, qui ont eu un petit coup de folie à un moment donné, ça j'en ai pas mal parce que j'aime bien pérenniser ces histoires-là, c'est une histoire humaine. Ces gens-là qui ont fait ça, si j'en parle pas, ben, personne va en parler. Je voudrais pas que leur histoire s'arrête à cause de moi. Et puis c'est tellement sympa de raconter tout ça. Ensuite, les doubles. Ben, malheureusement, j'en ai pas beaucoup parce que comme je cours toujours après le fric pour acheter une nouvelle moto, donc souvent c'est mes doubles qui partent. C'est un peu ça le problème.
Ce personnage-là, je le connais depuis à peu près 2014-2015. C'est quand j'ai acheté une moto sur Internet. Et donc, j'avais un copain qui était à côté de moi qui me dit voilà, bah, c'est une P105, donc voilà, ça roule bien et tout. Et puis, donc, je l'achète, je vais la chercher. Et quand j'appelle le copain que Jean-Luc connaissait bien, il me dit, bah, cette moto-là, moi, je l'ai réparée avec Jean-Luc Guignard. Que Jean-Luc Guignard, que moi, en étant malienne, je ne connaissais pas. Et que j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélos, emmener mes enfants sur le halage et tout ça, que je passais en bout de son chemin. Et donc, voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui que j'adore, qu'on a du mal à se quitter et tout. Et je voudrais citer aussi quelqu'un d'autre, c'est Cyril. Voilà, Cyril, que Jean-Luc connaît depuis l'âge de 12 ans, qui a donné beaucoup de coups de main et qui l'a initié un petit peu dans sa mécanique et tout ça. Voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'adore, j'aurais un petit peu de mal à oublier, qui m'a boosté, qui m'a donné envie de vivre sa passion, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis collectionneur aussi. Il m'a emmené dans son activité principale dans les films, que j'ai connu beaucoup d'acteurs comme Brad Pitt, comme Romain Duris, Grégory Fitoussi, Laura Smet et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a vraiment boosté. Et voilà, donc aujourd'hui, je voudrais le remercier pour ça. Et voilà, donc Franchin, merci.
Screaming wind.
j'ai toujours aimé lancer les jeunes dans cette passion. On a eu des belles réussites, comme Cyril, qui fait très bien son métier, qui fait beaucoup de belles choses. Je vois que mon petit pote Louis, il est arrivé. Alors Louis, c'est un super pote. On s'est découvert il y a 5 ans, à peu près, 5-6 ans. Il est arrivé en Mayenne, travaillé en Mayenne, et il est arrivé dans ses bagages avec une moto. Alors, bien sûr, en parlant de sa vieille moto, il est fini par tomber sur moi. On lui a dit, bah, écoute, Jean-Luc, veux-tu raconter l'histoire, toi, Louis? Ça serait mieux que moi. C'est beau, les histoires humaines, en fait. J'ai eu beaucoup ça, autant que de moto, presque. C'est tellement chouette de partager cette passion. Voilà, mon Louis. Bienvenue.
Jean-Luc l'a dit, je suis arrivé en Mayenne pour bosser avec des pompes bien serrées et une chemise bien blanche. Je suis là, c'est bon. Donc, je suis en effet arrivé pour le travail, la suite de mes études. Je suis arrivé tout seul à Laval. Mon père m'a appelé un jour en me disant j'ai vu sur tel magazine qu'il y avait un gros collectionneur de motos à 20 minutes. J'ai grandi toujours autour de mes motos et de mes voitures. Et j'ai appelé Jean-Luc. Je lui ai dit voilà, est-ce que ce serait possible de venir visiter votre musée? Quand est-ce que je pourrais venir? Il m'a dit oui, bien sûr. Combien vous êtes? Je lui ai dit je suis tout seul. Donc, passe dimanche et tu te joindras à d'autres groupes. Et forcément, je suis tombé dans des groupes d'une moyenne d'âge qui était bien supérieure à la mienne. Donc, je déteignais un petit peu le sur le tableau. Et donc, j'ai fait la visite. Et puis, à la fin, on a fini par boire un coup de plus ensemble, puis depuis trois. Et puis, on a passé une bonne soirée. À la fin de laquelle, Jean-Luc me disait, tu m'as parlé de cette moto qui potentiellement est, que tu as récupérée, qui pouvait potentiellement être celle de ton grand-père, mais que tu n'oses pas toucher, parce que pour moi, une vieille moto, avant, c'était les années 70, et ça s'arrêtait là. Et j'avais récupéré cette moto que j'ai mis 10 ans à avoir, sans jamais oser la toucher, et Jean-Luc a fini par me dire, écoute, débrouille-toi pour la monter, et puis on regarde ça ensemble. Et partant de là, on a mis un an et demi, jusqu'à il y a encore peu, à la refaire, finalement, de A à Z. Elle était vraiment en état d'épave, et en prenant un peu de recul, je me rendais pas forcément compte du boulot que ça représentait de là où on en est arrivé aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire qu'au-delà de la moto en elle-même, Jean-Luc n'a fait qu'augmenter ma passion pour la vie mécanique qui coulait déjà dans mes veines, mais là j'ai fini par être c'est viscéral. Donc voilà, donc cette passion qui a été toujours approfondie, et surtout l'apprentissage, en fait, parce que moi j'avais trop peu de notions de mécanique, mais là c'est quand même autre chose d'avoir Jean-Luc comme un mentor sur la mécanique. Donc ça finit de me transcender. Et au-delà du mentor, il y a quand même un personnage qui est incroyable et qui, pour moi, a été plus d'une fois, quand ça allait, surtout quand ça allait, mais aussi quand ça allait moins bien, un peu comme un second père. Et voilà, un point sur lequel je savais que je pouvais me rattacher et me reposer. Et étant loin de la maison, ça n'a pas toujours été facile, mais Jean-Luc a toujours été là à sa manière. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur la vie aussi, en plus de celles que j'ai pu apprendre sur la mécanique. Et c'est loin d'être fini.
Voilà, et Louis, il a appris super bien la mécanique, il se débrouille maintenant tout seul. Hein. Donc c'est devenu un bon pilote moto. Il a aussi le talent de pouvoir conduire n'importe quelle moto ancienne. Il a un don pour ça, et donc c'est un vrai plaisir de l'épauler. Et puis voilà, je suis prêt pour des plus jeunes. Hein. S'il y a des plus jeunes qui veulent choper la passion, hein, ça commence à gratter un peu là, notre ami Romain. Donc les passions, il faut les partager, il faut pérenniser. C'est important, c'est un rôle, c'est aussi un devoir, et puis ça rend une vie plus belle, quoi. Voilà.
Violent.
Oui, il y a d'autres musées. Il y a un grand musée sur Clermont-Ferrand, celui de Guy Baster, qui est très important. On travaille de manière un peu différente. Il était là-dedans, son père était déjà là-dedans, dans la collection. Il est né dans la collection. C'était pas le cas du mien. Moi, il était. La seule fois que je l'ai mis sur une moto, il a fallu que je retourne le chercher chez le voisin, parce qu'il ne savait pas la remettre en route pour revenir. Donc, c'était comme ça. Alors, Guy, la vision, c'est de faire le plus grand musée de France. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est de faire le musée le plus historique de France, c'est-à-dire avec les pièces très rares et parler d'histoire. Voilà, on travaille d'une manière différente, pour un but différent, mais c'est des musées complémentaires. Et puis, voilà, on a encore, qu'est-ce qu'on a comme musée? Il n'y en a pas beaucoup hein, en France, 7-8 peut-être. Il y a beaucoup plus de musées de voitures. Hein. À l'époque, il y avait beaucoup plus de voitures que de motos. Et puis, voilà, c'est intéressant, tout ce patrimoine. C'est pour ça qu'il faut absolument le pérenniser et le transmettre. Voilà.
Il y a des tuiles chouchous dans la collection?
Oui. La dernière qui vient d'arriver, en général, elle a un petit moment de, on va dire, c'est la petite dernière, la petite chouchoute. Et puis là-dedans, il y a toutes les pièces qui sont historiques, qu'on a eu un mal fou à avoir. Il y aurait presque une histoire par moto. Hein, c'est ça qui est le problème. Et puis ça, c'est pareil. Hein, enfin, qu'on arrive à les écrire, ces histoires, hein, ça fait partie du travail qu'il va y avoir devant nous.
Dans le film, tu dis... Il y a des périodes comme ça. Moi, ça me fait penser à un travail d'artiste, en fait. Je pense, on parlait beaucoup d'Indiane quand je t'ai passé. Est-ce que tu te considères plus comme un restaurateur d'œuvres d'art ou un véritable artiste?
Un restaurateur d'œuvres d'art, je pense, en premier. Me dire que je suis un artiste, c'est difficile à me dire, moi, de le dire. Mais je travaille artistiquement, surtout dans mes décors, dans les mises en scène, parce que ça, j'aime vraiment ça. Je dis que c'est mon métier. C'est-à-dire, j'ai la possibilité, quand j'arrive sur un lieu, c'est d'avoir une vision sur le lieu avec les objets, avec tout, mais une vision très rapide. Et donc, c'était mon métier, un metteur en scène aussi, dans les galeries marchandes de grande surface, dans tout ça. Et j'ai travaillé aussi pour des privés. L'aventure que j'ai trouvée la plus drôle, un jour, j'ai un copain qui est concessionnaire TAF, qui vend des camions, bien sûr. Il faisait une soirée incroyable où il y avait, je crois, 400 personnes d'invités. Et il me dit, Jean-Luc, je voudrais que tu me fasses la mise en scène de la concession. Ah, j'ai dit, c'est bon, mais vrai que je vais ranger des camions sur un parking. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été très vite, d'ailleurs, parce que je prends du recul un peu. Je regarde tout ça. Je dis, bon, là, je vais faire ça. Je m'arrange pour guider les gens avec des fois des plantes. Je masque des endroits avec une plante ou un truc qui attire l'attention. Enfin, voilà. Je guide un peu les gens assez facilement dans les décors, dans les mises en scène et tout ça. Je fais un peu ce que je veux là-dessus. C'est ça, ça me plaît. Alors, j'ai été jusqu'à garer les camions sur le parking, des smirwalks et des machins. Installer tout ce qu'était l'accueil, du moins épauler les gars qui faisaient ça. Et en fait, je me suis retrouvé à faire toute une concession en 2 heures, peut-être. Et j'en garde un super souvenir, parce que c'est une chose que je n'avais jamais fait et jamais pensé qu'on me demande. C'est un métier, c'est dans le ciné aussi, et donc on retrouve ça, hein, la déco, la mise en scène. J'ai toujours aimé ça. Là, quand je pense au prochain bâtiment que je vais faire, j'en sais rien, lequel ni comment, mais mon envie, ce qui me brûle à l'intérieur, c'est de dire quelle mise en scène je vais faire, quel décor, comment je vais amener de l'émotion aux gens et à moi-même. Parce que moi, ça me colle aussi. Hein. Et donc, voilà, c'est toujours... Alors, on va s'emmerder à fabriquer un bâtiment qui va durer 6 mois à faire, où c'est que des efforts, c'est que du travail dur, pour, en 2 jours, faire une mise en scène qui va me rendre heureux. Alors, à chaque fois, quand je vois le boulot qu'il faut faire pour être heureux 2 jours, je comprends les gens qui partent en vacances, hein, parce que... Moi, je ne pars pas souvent en vacances. Hein. Ou alors, c'est pour chercher une moto ou en livrer une.
Moi, ce que je pense qui te ferait plaisir, c'est de refaire la cabane à Harley.
Oui.
Et je pense que depuis un petit bout de temps, tu as un grand désir de la refaire. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour séparer Harley des Indianes.
Ben oui.
Donc, voilà. Mais je pense qu'en toi, il y a un grand désir de séparer tout ça.
Oui, c'est vrai. Ma collection Indiane et ma collection Harley sont 2 collections vraiment historiques. Et c'est un malheur de les laisser ensemble, mélangées dans le même bâtiment. Parce que, en fait, ça annule toutes les deux, quoi. Il y a tellement de choses à raconter avec l'une ou l'autre qu'il faut absolument les séparer, qu'elles soient dans deux bâtiments séparés. C'est vrai que ma cabane Harley, je meurs de pas pouvoir la mettre en place à cause de la place qu'elle prend. Et parce que ça a été une telle passion, cette cabane, et c'était... Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Mon métier était donc de créer des expositions, de faire de l'événementiel. Et quand on arrive en 2003, c'était le centenaire Harley-Davidson. Donc je dis, j'invente quoi, moi, cette année? Oh, ben, centenaire Harley-Davidson. Je regarde dans la collection... Ah, j'ai 9 Harley-Davidson. Pas mal, déjà. Mais c'est pas assez pour faire une expo, que je me disais. Alors... Ah, je dis, il faut que je donne du volume à cette expo. Alors, je vais faire la cabane des frères Davidson, qu'ils ont fait, que le père Davidson avait fait dans le jardin, pour que les jeunes bricolent là-dedans. Et donc, je fais la cabane. Alors, je dis, il faut que je donne un peu plus d'intérêt à l'histoire. Donc, je vais faire tout l'intérieur. Les machines-outils, que je fasse pour les gens. Donc, ils voyaient avec des carreaux un peu autour, mais c'était très discret. Donc, je suis allé à fond là-dedans. Je l'ai vécu, ma cabane. J'ai dessiné le plan de la première Harley moi-même pour la mettre dans le décor. J'avais mis un mannequin qui regardait ça, qui travaillait là-dessus. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'était très vivant, cette histoire. J'avais même fait un petit coin bureau où ils recevaient du courrier, enfin tout ça. Il y avait le petit moteur qui entraînait la transmission, le petit tour à métaux. Enfin bon, un boulot assez monumental. Et donc, quand je vais sortir cette première expo de ma cabane, c'était à Wies en Belgique, qui est un gros salon. Et c'est là que je vois la mayonnaise qui prend. Les gens qui étaient là, ils venaient voir ma cabane. Ils revenaient quelqu'un d'autre et ça a eu un succès terrible. Voilà. Et donc, j'ai commencé à vivre cette histoire Harley-Davidson en 2003 et je me suis impliqué à fond. Je n'ai vécu que Harley-Davidson, qui a duré même 2 ans et demi, parce que tout le monde voulait cette expo, mais je ne pouvais pas répondre à tout le monde en même temps. Ça ne m'arrivait pas souvent dans mon boulot d'avoir autant de travail et autant de... Ben voilà, l'expo, elle a duré 2 ans et demi. Elle s'est amplifiée. J'ai dû finir 2 ans et demi après avec 25 Harley, un truc comme ça. C'est un travail intense. Je récupérais que des Harley, je remontais que des Harley. Je vivais que pour ça. Et moi, j'adore dans ce métier, dans cette passion, c'est de le vivre à fond. C'est de le vivre à fond parce que ça va me faire grandir, ça va me faire apprendre. Que ça devienne un truc de fou, quoi. Et là, c'était une belle réussite, Harley-Davidson. En plus, c'était très porteur, le nom et tout. Je me suis retrouvé embauché par Harley-Davidson France pour faire le mondial du deux roues à Paris, à Porte de Versailles. J'avais ramené à peu près 40 Harley qui venaient de collections diverses et de la mienne, bien sûr. Et puis, ils avaient fait une com avec une Harley, une fausse Harley qui venait des États-Unis, qui avait été fabriquée à 8 exemplaires pour le mondial du deux roues, qui a été dispatché dans le monde entier. Et puis donc, tout le monde avait vu ça au journal de 13h. Enfin voilà, je me retrouve avec cette Harley devant ma cabane. Et les gens me parlaient que de ça. C'était chiant quoi pour moi, j'avais réuni 40 Harley extraordinaires. Et tout le monde me parlait de cette copie qui était, qu'ils avaient vue à la télé. Donc ça a duré 13 jours le supplice. Hein. Et puis, c'était comme ça. Et maintenant, on travaille de frangin souvent. Sur toutes les expos Harley, parce qu'ils se sont aperçus aussi qu'elles étaient chez moi, la majorité, et puis qu'on savait un peu s'en occuper, en parler et promouvoir. Donc maintenant, Harley-Davidson nous confie pratiquement toutes les expositions rétro. Hein. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé une bonne petite soirée. On continuerait bien, mais il faut quand même qu'on aille tous dormir, parce qu'on a du boulot demain. Ça, c'est pas arrêté ce soir, l'aventure. Merci beaucoup, merci de votre présence et puis à très bientôt pour de prochaines aventures.
Voilà, l'émission se termine. Si vous avez envie de visiter le musée de Jean-Luc Guignard ou tout simplement d'acheter le film qui lui est consacré, je vous donne son numéro de téléphone 06 12 64 76 49. 06 12 64 76 49. Restez à l'écoute des programmes de Campus Lille. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit, sur la plus libre des radios. Bye! We'll be right back.